Donc la France, moins 40, le monde, plus 24. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? L'Amérique du Nord, d'abord, qui a connu la crise la plus profonde de l'industrie automobile, avec une baisse au début de l'année 2009 qui était de 50% sur le premier trimestre, 50%, et qui a eu le courage d'accompagner les constructeurs. Vous savez que GM et Chrysler ont déposé le bilan, sont passés ce qu'on appelle aux États-Unis en Chapter 11, et les autorités américaines les ont forcés à se restructurer, à fermer massivement des usines, à fermer massivement des réseaux de distribution, de manière à reconquérir, après cette purge considérable, une vraie compétitivité. Dans le même temps, l'Europe, plus angélique, a dépensé énormément d'argent public, non pas pour forcer les entreprises à se restructurer, mais au contraire pour ce qu'on appelait les primes à la casse, aider artificiellement le marché. Et donc, la fin 2009, 2010 et début 2011, finalement, après un début 2009 qui a été catastrophique, moins 35%, mais après, assez vite, on est revenu à des niveaux qui étaient proches du niveau avant crise. Mais par contre, la chute est venue après. L'Europe aujourd'hui est à 92% de ce qu'elle était en 2007, l'Amérique du Nord à 113%. Donc, la cure d'argent public mise en place pour aider artificiellement le marché, pour soutenir le marché, n'a pas eu d'impact ni sur la compétitivité des entreprises, n'a pas permis d'aider à restructurer, et on se retrouve aujourd'hui avec un marché qui artificiellement a été soutenu pendant 2 ans après la crise et qui aujourd'hui souffre. L'année dernière, le marché a augmenté de 2%, et quand on regarde les évolutions dans les années qui viennent, on peut imaginer que l'industrie européenne croîtra plus ou moins en ligne avec le PIB. Ça veut dire que, vu d'aujourd'hui, on ne sait pas encore quand on retrouvera le niveau 2007, le niveau d'avant-crise. Alors la France, moins 40, qu'a fait l'Allemagne? L'Allemagne, plus 2. L'Allemagne a continué à saturer l'intégralité, pendant toute la période, l'intégralité de ses installations. Alors l'Asie, elle, il faut que je regarde parce que bon, il m'a perturbé, donc l'Asie est à 160, donc 100 en 2007, 160 en 2014, grâce à un magnifique 280 de la Chine. La Chine est devenue aujourd'hui, en termes d'industrie automobile, le premier marché du monde, et l'Asie, dans son ensemble, donc y compris le Japon, la Corée, l'Asie du Sud-Est et l'Inde, représente aujourd'hui 55% du marché mondial, alors qu'il y a une dizaine d'années, les trois grands marchés, Amérique du Nord, Europe et Asie, étaient relativement équilibrés avec un tiers de la production mondiale. Donc ça, c'est vu par la géographie. Maintenant, si on regarde les entreprises, il y a certaines entreprises françaises, pour commencer par elles, Peugeot, moins 9%, Renault, plus 9%. Mais Renault, Nissan, dans son ensemble, donc le groupe Renault-Nissan, plus 9%, PSA, moins 9%. Ford, qui a réussi un remarquable redressement, qui a réussi à passer la crise de 2009 sans passer par la case Chapter 11, qui a vendu deux de ses joyaux, qui étaient Volvo et Jaguar Land Rover. Volvo se trouve dans une situation un peu délicate aujourd'hui, a été racheté par un groupe chinois qui s'appelle Geely, et Jaguar Land Rover a été acheté par un groupe indien qui s'appelle Tata. Donc malgré ces ventes de ces deux entreprises qui représentent à peu près 1 million de voitures, Ford est aujourd'hui à moins 4 par rapport à ce qu'il était en 2007, mais une rentabilité, surtout sur le marché américain, assez stupéfiante. Donc moins 9, plus 9 pour les deux groupes français, moins 4 pour Ford. Ce qui était le numéro 1 mondial, Toyota, est à plus 1. Donc Toyota est resté relativement stable, a eu un certain nombre de problèmes, et j'y reviendrai tout à l'heure, avec des rappels massifs de véhicules en 2012, je crois, 2012 et 2013, qui a stoppé un peu sa croissance, et il est revenu aujourd'hui à ce qu'il était finalement avant crise. Mais le grand gagnant, en fait il y a deux grands gagnants, c'est le principal grand gagnant, c'est Volkswagen, 160. Donc il est passé de 6 à plus de 10 millions de voitures, et c'est le grand gagnant de cette période, en réussissant à prendre la main sur Porsche, sur l'industrie du camion avec MAN et Scania. Et aujourd'hui, non pas le numéro 1 mondial, il lui manque 100 000 voitures. Il a eu l'imprudence de déclarer le nombre de voitures produites en 2014 avant Toyota. Donc je ne sais pas si l'un provoque l'autre, mais Toyota, sur le fil, a produit, je crois, 50 000 voitures de plus que le groupe Volkswagen. Donc vous voyez, un marché qui est en forte croissance, une redistribution des cartes assez importante, à la fois en termes géographiques et en termes d'entreprise, avec les trois numéros 1 mondiaux qui sont Volkswagen, Toyota et GM dans un mouchoir de poche, aux alentours de, ou un peu plus de 10 millions de voitures, et derrière Renault-Nissan dont j'ai parlé tout à l'heure, et surtout Hyundai qui a fait une évolution spectaculaire. Je connaissais, du temps où j'étais à Saint-Gobain, Hyundai en étant une petite société locale coréenne qui, au moment de la crise financière de 1997, la crise asiatique, a pris Kia, donc c'est devenu le groupe Hyundai-Kia, qui a 80% du marché coréen, une base coréenne extrêmement solide, une organisation militaire qui lui permet d'avancer extrêmement vite. Et si aujourd'hui on vous demandait, ou on demandait à beaucoup de gens, quels sont en termes de qualité, en termes d'organisation, les sociétés qui seraient des modèles, vous diriez peut-être Toyota, vous diriez peut-être Volkswagen ou les groupes allemands. En fait, c'est Hyundai. Hyundai a, sur un classement qui s'appelle J.D. Power, 5 véhicules qui sont parmi numéro 1 dans leur catégorie. 5 véhicules. Donc c'est aujourd'hui, je pense, la société qui sert de modèle en termes d'organisation, en termes de croissance. Et quand je vais voir mes clients chinois ou mes clients indiens, le rêve, c'est de devenir le Hyundai du 21e siècle. Ils ne disent pas « je veux devenir le Toyota, je veux devenir le Volkswagen », ils disent « je veux devenir le Hyundai du 21e siècle ». Si tous ceux qui me l'ont dit deviennent le Hyundai du 21e siècle, il y aura un peu d'embouteillage, parce qu'ils sont 4 ou 5 à me l'avoir dit, exactement la même formule. Donc, un marché en croissance, une redistribution des cartes au niveau mondial, à la fois en termes géographiques et en termes des constructeurs. Alors après, si on regarde...